La catastrophe nucléaire qui se déroule au Japon pourrait-elle correspondre au phénomène terrible dont Jésus parle dans l'évangile de Luc, phénomène qu'il ne décrivait pas parce qu'il était alors inconnu? Est-ce que, en bref, pour résumer, nous serions en train de vivre la fin des temps? J'imagine que toutes sortes de prophètes et de sectes s'empareront du sujet, oubliant qu'elles ont déjà annoncé la fin du monde à l'occasion de quelques catastrophes précédentes, tsunami ou Tchernobyl ou autre. Et si certains le font en toute bonne foi, en toute sincérité, d'autres seront animés d'idées de profit, de soucis de grandeur, et mélangeront à la fois la parole de Dieu et les prophéties mayas ou autres, pour ajouter à la confusion ambiante et discréditer la parole de Dieu. À l'opposé de cela, nous trouverons aussi les sceptiques, qui ne verront rien dans ces événements, qui les poussent à s'interroger, la terre et l'humanité en ayant déjà surmonté bien d'autres. Je ne sais pas si certains d'entre vous, peut-être, ont vu hier soir le documentaire qui est passé sur... à propos du volcan islandais Laki. C'était très intéressant. Et ce volcan islandais a connu, au cours de l'été 1783, une éruption telle qu'un nuage toxique s'est répandu pendant tout le reste de l'été jusqu'à l'automne sur toute l'Europe et a provoqué, c'est quelque chose d'assez peu connu, mais a provoqué la mort de nombreuses personnes, et notamment parmi les ouvriers agricoles, ce qui a eu pour conséquence de compromettre les récoltes dans une grande partie de l'Europe. Le soleil s'est obscurci durablement et le soir et le matin prenaient la couleur du sang. Les gens tombaient à genoux en implorant Dieu, pensant que la fin du monde, l'heure de la fin du monde avait sonné. Sous l'effet des gaz rejetés dans la haute atmosphère, les rayons du soleil étaient atténués, réfléchis par ces gaz, et les hivers sont devenus extrêmement longs et froids plusieurs années de suite, et ceci a plongé la Terre dans une mini-ère glaciaire qui a provoqué des famines dans toute l'Europe, et on dit, à tort ou à raison, que peut-être cela a hâté la survenue de la Révolution française. Évidemment, pour nous, chrétiens, c'est pas très facile de nous y retrouver dans un tel contexte. Et devant vous, je ne me hasarderai pas à chercher ou à réfuter les événements du moment, dans les événements du moment, une correspondance avec les textes bibliques que nous allons lire. Premièrement, parce que je ne suis pas qualifié pour cela. D'autres personnes ont étudié ces choses longuement, scientifiquement et théologiquement. Et ensuite, entre ces personnes très qualifiées, de profondes divergences subsistent et les opposent quant à la nature et la chronologie de ce qui doit arriver. Les prophéties sur la fin des temps sont difficiles à démêler et très souvent se côtoient dans un même texte des événements très espacés dans le temps, avec de longues périodes qui interviennent alors que cela apparaît dans un même texte. Et on pourrait faire un parallèle avec la venue du Messie vue par les Juifs de l'Ancienne Alliance.
Ça dépasse un peu l'écran. Je pense qu'il faut l'éloigner un peu. Ah non, pardon.
On peut imaginer. Voici ce que voyaient les Juifs lorsqu'ils lisaient les prophéties de l'Ancienne Alliance. Sur cette venue du Messie, telle qu'elle leur était présentée, ils voyaient ceci, un message assez complexe, où se mêlait Ésaïe 53 avec un Messie qui devait souffrir, qui n'avait rien pour nous plaire, rejeté. Il s'est élevé comme une faible plante, tous ces versets qui reviennent, et où d'autres passages, on parlait d'un Messie qui venait régner. Et la seule chose, c'est qu'en fait, nous le savons nous maintenant, mais pour eux c'était plus difficile à réaliser, c'est qu'il y aurait d'abord ceci, le Messie qui devait venir souffrir, et ensuite, ce Messie viendra dans sa gloire. Mais entre les deux, une longue période de temps s'écoule. Cette période de temps, nous y sommes actuellement, et je suppose si on leur avait dit à cette époque-là, ça va durer 2000 ans ou plus, parce que c'est pas encore, on n'est pas encore à la deuxième venue, eh bien, ils auraient peut-être eu du mal à nous croire. Et il y en a un peu de même avec les prophéties sur la fin du temps, des temps. On a du mal à discerner comment les choses vont se produire, dans quel ordre. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est que ça ne manquera pas d'arriver. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à ce sujet de la fin des temps, parce que, tout simplement, l'actualité nous en donne l'occasion. En quoi, nous, les chrétiens baptistes de la rue Guinmer, en ce 20 décembre 2011, nous sommes concernés? Vers quoi orienter nos pensées? Quelles doivent être nos attitudes? Comment et dans quelle direction agir dans ce contexte? Nous allons naviguer entre deux textes aujourd'hui. Alors je vous conseille de mettre un doigt sur le premier, déjà. Il s'agit de l'évangile de Luc, chapitre 21. Sans cesse faire un aller-retour entre ce chapitre 21 de l'évangile de Luc et un autre texte qui se trouve en 2 Pierre, au chapitre 3. Donc Luc 21, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et tout ce chapitre 21, que nous n'allons pas lire entièrement, mais piocher un petit peu ça et là, voit s'entremêler des événements qui sont à la fois d'un futur proche pour les auditeurs de Jésus. Et dans ce futur proche, on trouve la prise de Jérusalem par les armées de Titus en l'an 70, soit donc une petite quarantaine d'années plus tard, et donc à l'échelle d'une vie. Voilà pourquoi je parle de futur proche. Et d'autres événements, d'autres prophéties qui concernent des temps plus reculés, plus éloignés. Et cependant, ce qu'on peut noter et qui est frappant, c'est que tous les contemporains disciples de Jésus, et c'est attesté dans tous les écrits que nous lisons du Nouveau Testament, et ceux qui les ont suivis au cours des premiers siècles, se sont sentis concernés par l'ensemble des événements. Déjà, en 65, Pierre écrivait dans sa première épître, je le cite, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche », en l'an 65. Si Pierre se sentait concerné en 65, pourquoi ne le serions-nous pas en 2011? Donc, première chose, nous sommes concernés. Nous l'avons toujours été. Nous étions concernés avant le tsunami et avant Fukushima, avant Hitler, avant l'éruption du Laki, avant les pestes du Moyen-Âge, avant les invasions barbares, avant la prise de Jérusalem. Et nous le serons de plus en plus. Mais on ne va pas non plus se servir de ces événements passés qui reviennent de manière régulière, de manière récurrente, pour dire que ça va durer encore longtemps et tenir pour peu de choses les avertissements de Jésus. Et c'est pour prévenir une telle attitude de défiance que Pierre Le même Pierre, donc, écrivait déjà dans sa deuxième épître, donc il s'agit du deuxième texte qu'on va garder sous le coude, de Pierre, au chapitre 3, versets 1 à 9. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Verset 9. Ceux-là même qui ricanent en disant que si la fin des temps n'arrive pas, c'est peut-être parce que tout cela n'est que bêtise ou peurs ancestrales, ne se doutent pas qu'ils sont eux-mêmes l'objet de la sollicitude de Dieu, qu'ils sont eux-mêmes l'objet, la cause du retard pour leur salut. Et voilà aussi pourquoi, dans Romains au chapitre 2, Paul ose affirmer qu'ils sont inexcusables. Je vais lire le verset 4 de Romains 2. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Paul écrit ces mots dans le chapitre même où il dit que les hommes sont inexcusables. Et pour cause, méprisant la bonté, la longanimité de Dieu et ne reconnaissant pas que Dieu les pousse à la repentance. Quand les hommes s'interrogent ainsi, vous ne trouvez pas qu'il y a plus de tremblements de terre depuis quelques années? Question intéressante, mais il serait dangereux pour l'ennemi qu'en s'interrogeant ainsi, il s'approche trop près de Jésus. Alors voici ce qu'on leur répond. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Et rien n'indique, d'après des statistiques et les observations qu'on en fait depuis qu'on suit tout ça, rien n'indique qu'il y en ait plus qu'avant. Mais c'est seulement parce que les moyens de communication actuels permettent de diffuser l'information et que tout le monde est au courant. Alors pour ma part, je reste persuadé que si Jésus parle dans ces termes, c'est qu'on devra assister à une augmentation significative des tremblements de terre. Mais bon, admettons quelques instants cet argument qu'il n'y en aurait pas plus, que c'est juste qu'on n'est plus au courant. Alors il convient de répondre à cette question. Comment Jésus, qui parle en l'an 30 et quelques de notre ère, qui ne connaît ni la télévision, qui ne reçoit pas la radio, qui ne surfe pas sur Internet, qui ne communique pas avec Facebook, peut-il annoncer de telles choses s'il n'est pas le Fils de Dieu? C'est inconcevable pour un esprit purement humain de l'époque. Et alors, s'il est le Fils de Dieu, pourquoi ne pas prendre au sérieux ses avertissements? Versets 5 et 6 de cet épître de Pierre, « Ils veulent ignorer ». Voilà ce qui est écrit. « Ils veulent ignorer ». Si quelqu'un parmi nous se trouve dans cette attitude de défiance, par simple ignorance, ou peut-être porté par l'incrédulité ambiante, et puis qu'il réalise en lisant ces passages que la patience de Dieu l'a conduit jusqu'ici, jusqu'à cet instant. Alors je l'en conjure qu'il quitte le camp des personnes inexcusables et trouvera auprès de Jésus pardon et réconciliation avec Dieu. Mais revenons à Luc, chapitre 21, et verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ne soyez pas effrayés. Voilà ce qui nous est dit. Et ça, on le retrouve dans les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Luc et Marc. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés, gardez-vous d'être troublés. Et si Jésus donne un tel conseil, ça veut dire qu'il y a de quoi. Ça veut dire qu'il y aura de quoi être effrayé. Il y a matière à être effrayé. C'est certainement, on va vivre certainement des choses qui vont susciter la crainte, la peur, un sentiment légitime et humain, d'autant plus que on sait où cela conduit. Verset 11, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Comment ne pas être effrayé en lisant de telles choses? Comment ne pas être effrayé lorsqu'on est au milieu de telles choses? Et pourtant, au milieu de ce tumulte, la voix de Jésus paraît si apaisante. Ne soyez pas effrayés, comment est-ce possible? Verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver, de quel commencement s'agit-il? Du commencement de la fin? Du commencement de la fin ultime? Je ne sais pas si vous connaissez, je vais faire une petite diversion. Cette phrase de Churchill, après la bataille de Stalingrad, qui marquait la première victoire des Alliés contre les armées d'Hitler, il a dit, pour expliquer que ça serait encore long, qu'on n'était pas encore au bout de nos peines, il a dit, ce n'est pas encore le commencement de la fin, non, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, et c'est peut-être la fin du commencement. C'était juste une parenthèse. Je ne sais pas aujourd'hui où nous nous situons aujourd'hui dans la chronologie des événements. Et puis, bien malin qui pourrait le dire. Mais ce que je sais, c'est que chaque signe nous rappelle que l'instant approche et nous incite à relever, à nous redresser et lever la tête. Cette image de se redresser est intéressante. On voit celui qui est accablé et qui sent que sa délivrance est proche, c'est dit texto. Mais peut-être pas seulement. L'idée aussi de sortir de l'engourdissement provoqué par le péché que nous tolérons trop facilement dans nos vies. Je vais vous lire un passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13. Versets 11 à 14. La nuit est avancée. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça n'a pas dû leur faire plaisir qu'on leur dise ça. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et Hébreux. Chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Tiens, en voilà d'autres qui vivaient dans l'attente du jour du Seigneur. Nous voyons s'approcher le jour. On est dans le premier siècle encore. Clairement, nous sommes invités à nous décharger de toute angoisse concernant la fin des temps. Et bien plus, nous sommes appelés à nous mobiliser dans cette perspective, à nous motiver pour le service du Seigneur, simplement pour la bonne raison que nous avons lue tout à l'heure, le temps qu'il reste, c'est du crédit au bénéfice de ceux qui entendront et recevront la parole. On peut être angoissé, mais ça, voilà, Jésus nous dit, ne soyez pas troublés, ne vous effrayez pas, mais on peut être angoissé pas pour nous-mêmes, peut-être plus pour nos proches, en particulier nos enfants. Et là, c'est plus difficile. Je n'ai pas vraiment de réponse précise à donner là, sur ce point-là. Ce que j'ai pu remarquer, et là ça n'engage que moi, c'est que quand on parle de toi, dans l'Ancien Testament, ça signifie souvent le peuple ou ta famille, et que parfois ça se prolonge un peu dans le Nouveau Testament, mais de manière moins marquée, par l'Église ou ta famille également. Mais pourtant, il est clair que le salut est chose individuelle et personnelle. Mais bon, il est dans l'ordre des choses que dans une famille où Dieu a la première place, cela est un retentissement sur tous les membres. Et alors, à quand avons-nous la dernière preuve de ça, dimanche dernier, hein, toutes les familles, tous les témoignages que nous avons entendus faisaient partie, étaient orientés dans le sens de personnes qui ont reçu de la part de leur famille un enseignement et l'amour du Seigneur. Mais voilà, il n'existe pas de critère de filiation automatique du salut. Nous ne pouvons que transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants ce que nous avons reçu du Seigneur, prier, les confier à Dieu pour leur salut, comme pour la traversée de cette période difficile de la fin des temps. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, aïe, et du boire, et par les soucis de la vie, aïe, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, voilà, jusqu'au verset 36. Veillez et priez. Que dire de plus, hein ? Le conseil est clair, c'est la raison même d'être du sel de la terre pour nous-mêmes, pour nous tenir prêts, pour nos contemporains qui sont désorientés. Retournons en 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 15. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme l'arche était ouverte aux hommes du temps de Noé, jusqu'à l'instant précis, il y a un moment qui est un moment charnière, ça c'est sans jeu de mots par rapport à la porte, mais jusqu'à l'instant précis, où Noé a fermé la porte, de même le salut est accessible jusqu'à cet instant précis, qui surviendra comme un voleur. Et la soudaineté de l'événement, telle qu'elle est décrite ici, surprend par rapport à la durée de la période des signes, qui semble être, au contraire être assez longue, au point que les hommes vont finir par railler les avertissements de Dieu. Il ne restera plus rien de la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais Dieu nous projette dans l'espérance de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est dans cette espérance que nous sommes appelés à vivre dans la paix. Le Seigneur lui-même nous l'a dit, on l'a entendu ce matin, ce verset, « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde, voilà. Hein. C'est clairement dit ici, quand le Seigneur reviendra, c'est ce qui est marqué là, il veut nous trouver, il veut nous trouver dans la paix. Malgré les guerres, dans la paix, malgré les famines, dans la paix malgré les tremblements de terre, malgré la radioactivité, et que sais-je encore ce qui nous attend. Dans les passages que nous avons lus ce matin, il est question d'événements les plus terribles, les plus dramatiques qui puissent être. C'est écrit noir sur blanc, et c'est dit sans détour. Pas question pour Jésus de les minimiser. Pas de fausses paroles apaisantes du genre « vous verrez, tout se passera bien ». Mais pas non plus d'alarmisme excessif pour susciter l'adhésion par la crainte. C'est des faits qui sont annoncés, tout ce qu'il annonce se produira. Et pourtant, ce qui ressort en toile de fond de tous ces passages et en filigrane qui traverse tous ces instants, à travers tous les conseils que nous donnent Jésus et les apôtres, c'est la paix de Dieu sur laquelle le croyant peut se reposer au cœur même de la fournaise. Dieu peut nous appeler maintenant, demain, dans plus longtemps, nous, nos enfants, nos petits-enfants, des descendants plus lointains, à traverser cette période difficile de notre terre. Mais ce qu'il désire, c'est que nous demeurions en paix. Il veut nous trouver, quand il reviendra, il veut nous trouver en paix. En paix, parce que nous ne sommes pas sans espérance. En paix, parce que rien n'échappe à son contrôle. On voit bien dans le drame nucléaire que vit le Japon, les choses ont échappé au contrôle de ces hommes et que leur création s'est retournée contre eux. Rien de tel chez notre Dieu. Rien de tel chez notre Dieu. Les choses n'ont pas échappé à son contrôle. Nous attendons dans la paix la manifestation de sa gloire. Amen.